Merci beaucoup, Christophe. On est très heureux de t'entendre sur ce sujet qu'on connaît finalement mal. Je me rends compte aussi d'une mise d'accent sur cette question, et d'autant que récemment, je travaillais plus sur la question des déséquilibres de sexe induits par le vieillissement, qui me semblait aller plutôt en faveur d'un excès de femmes par rapport aux hommes. Et justement, l'un des points sur lequel je voulais t'interroger, c'était: penses-tu qu'on peut utiliser les méthodes que tu proposes pour révéler d'autres surmortalités anormales à d'autres âges? Je pense par exemple à des âges où les femmes sont peut-être plus vulnérables, les femmes vieillissantes. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à explorer de ce côté-là, ou que justement ce vieillissement qui fait que les femmes sont moins fragiles que les hommes rend assez difficile donc cette mesure finalement de ce déficit de care qu'on pourrait relever sur les femmes plus âgées? Est-ce que tu as connaissance de travaux sur ce point? La curiosité. Puis par ailleurs, ce qui m'intéressait aussi dans tes travaux, c'est de voir quelle utilisation de la géographie tu fais et comment tu l'articules justement avec des concepts sociologiques, anthropologiques. Et ça, c'était très stimulant. C'est-à-dire que tu ne fais pas les cartes pour faire des cartes ou montrer, il m'a semblé, que la géographie expliquait à elle toute seule tout. On a déjà eu ces débats dans le laboratoire, c'est-à-dire en quoi les théories des géographes sont utiles, jusqu'à Couscous. Donc si tu pouvais un tout petit peu nous dire, toi, effectivement, comment tu vois, dans un article que tu as écrit récemment là, dans le Lancet, tu dis que la géographie est un facteur clé de la mentalité des filles. Tu peux nous redire un petit peu plus précisément comment tu vois cette complémentarité de la question qu'on dit dans tes travaux? Et puis une petite curiosité, parce qu'on travaille sur la Méditerranée, je voulais savoir sur les Balkans, si tu peux nous dire quelques mots sur tes travaux sur les Balkans. Je pense que ça pourra aussi intéresser. Voilà, c'était un peu quelques petites questions. Tu peux répondre maintenant, oui.
D'accord. Alors, sur les Balkans, là c'est vraiment. Bon, d'abord pour la petite histoire, moi, il y a des choses que j'appelle ce que je fais sur la table de ma cuisine. Et sur la table de ma cuisine, je vais regarder des données démographiques. Et je vais tous les étés dans les Balkans, parce que mon épouse est originaire de cette partie du monde. Et donc, je regarde les données démographiques des Balkans, comme ça, par désœuvrement. Et donc, c'est vraiment moi qui, il y a une dizaine d'années, ai vu qu'il manquait de petites filles dans certaines régions des Balkans. Pas celle de mon épouse, parce qu'en fait ces régions elles sont toutes les unes autour des autres. Donc les gens ont commencé à dire que non, j'y connaissais rien, je parlais pas albanais, tout ça, les données étaient vachement dures, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai réussi à les convaincre, et puis on a travaillé dessus et on a découvert que l'Albanie était affectée par des déséquilibres, le Kosovo, la partie albanaise ou albanophone de la Macédoine, donc vous connaissez parfaitement la géographie de cette région, on ne peut pas bien vous expliquer, et aussi le Monténégro au nord. Donc, où est l'intrus de ces quatre régions? L'intrus, vous l'avez deviné tout de suite, c'est le Monténégro, qui est une région slave et orthodoxe. Je ne sais pas s'il y a des gens d'origine serbe ici ou monténégrine. Ah non, bon, je vais continuer. Alors, Monténégro, c'est particulièrement difficile parce que la population du Monténégro, c'est la population d'une toute petite ville en Inde. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. En tout cas, ces quatre régions qui sont les unes à côté des autres. Donc, d'abord, il y avait le principe albanais, puisque le Kosovo est à 90% peuplé d'Albanais. Et puis, ça se manifestait dans les zones albanaises de Macédoine. Et puis, il y avait cette énigme du Monténégro. Et donc, il fallait reconnaître que le Monténégro, en fait, n'était autre qu'une population de type albanaise, mais slavisée. Je ne le dirai pas devant des gens monténégrins, parce qu'ils ont le sang chaud dans cette partie du monde, mais c'est en fait comme ça que ça se passe pour les systèmes de parenté, c'est comme ça qu'on peut distinguer le Monténégro de la Serbie, qui autrefois, on constituer le même pays. Après la rupture de la Yougoslavie, c'était la République de Serbie de Monténégro. Puis finalement, ils sont séparés. Et oui, ils sont séparés, mais les sex ratios aussi les séparent en Serbie. Il y a un système de parenté plus bilatéral. Donc en fait, c'est en faisant ces cartes qu'on arrive à revoir les choses. La carte micro-régionale pour les Balkans montrait une très forte homogénéité. Et je continue à chercher les zones albanaises, les Grèces, etc., pour voir s'il y a des traces qu'on peut voir ailleurs. Hein. Donc les pires grecs étaient avant très peuplés d'Albanais. Donc on peut imaginer que la démographie nous montre un résidu de systèmes socio-historiques présidant à la formation des familles. Et ce, indépendamment de la religion. Alors il y a d'ailleurs un dicton que je ne peux pas m'empêcher de vous répéter, qui est classique en Albanie, c'est quelle est la religion des Albanais ? C'est d'être albanais. Et en fait, ça capture assez bien la chose, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y a une tolérance religieuse assez forte, en Albanie il y a pas mal d'orthodoxes, il y a aussi des catholiques au nord, mais la population est principalement d'origine musulmane, de tradition musulmane, mais c'est le fait qu'il y a quelque chose qui va au-dessus de la religion. Je n'ai pas parlé de religion, hein, mais vous avez vu, hein, c'est un sujet qu'on adore aborder en France, mais je n'ai pas mentionné, peut-être que quelqu'un va me poser la question après. Mais je vous préviens tout de suite qu'en fait ça n'a aucune importance, parce que c'est beaucoup moins important que les choix familiaux. Il y a d'abord la famille et ensuite il y a la religion qui vient se greffer dessus et qui crée par exemple de temps en temps des croyances sur l'après-vie ou après-mort, mais ça c'est un habillage ex post qui correspond à des systèmes de parenté particuliers qu'on ne va pas voir de la même façon dans une même zone religieuse. Je vous rappelle que l'Azerbaïdjan est musulman en Albanie, que l'Inde est principalement hindou, que le Vietnam est traditionnellement bouddhiste du petit véhicule et du grand véhicule, que la Corée est plutôt bouddhiste mais aussi chrétienne. Bref, que vous avez pratiquement tout le monde. Je n'ai pas trouvé de population juive, mais sinon, l'éventail religieux est extrêmement large par la population chrétienne. Donc voilà sur les Balkans, il y a effectivement des problèmes de mesure, donc je ne pourrais pas dire quand est-ce que ça a commencé à apparaître. Mais par contre, tout le monde s'est mis à peu près au même niveau, on est aux alentours de 110-109, comme s'il y avait, c'était partagé du Monténégro, à l'Albanie, et aux Albanais de Macédoine. Ensuite, sur la géographie, je ne peux pas parler comme un géographe, mais on est obligé de faire des cartes parce qu'il y a toujours des concentrations spatiales, y compris dans les petits pays. Donc j'ai fait des cartes de la Géorgie il y a peu de temps qui montrent que c'est dans l'est de la Géorgie que les déséquilibres sont plus forts. Or, si on va un peu plus à l'est de la Géorgie, comme vous devinez, on tombe sur l'Azerbaïdjan, où c'est encore plus fort que dans l'est de la Géorgie. Où on tombe d'ailleurs ensuite, on est sur le nord de l'Albanie, de l'Arménie, où c'est également plus fort. Donc en fait, il y a un principe de concentration géographique. Alors, peut-être qu'on peut dire que la géographie n'explique rien, mais en fait, elle désigne là des mécanismes qui, s'ils ne sont pas spatiaux, ils ressemblent fort. Alors, s'ils ne sont pas spatiaux, vous me dites de quel mécanisme il s'agit. S'il y a des mécanismes sociaux, par exemple la composition anthropologique de la population, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait possible, mais il se trouve que rien ne le montrera mieux que la représentation spatiale. Donc au-delà de la composition sociale et économique ou anthropologique, le dispositif spatial est beaucoup plus évident que n'importe quoi. Donc ça devient difficile de croire que la géographie n'est que le reflet d'autres systèmes, d'autres instances, par exemple sociologiques, qui elles prédomineraient. On veut bien leur accorder cette prééminence en termes d'explication des mécanismes. Ne pensez pas que je m'adresse aux sociologues parmi vous. Quand il s'agit de montrer la structuration au sein d'une société ou d'un groupe de sociétés projeté sur une carte, on voit qu'il y a nécessairement un principe spatial qui est à l'œuvre et qui semble surdéterminer des configurations plus socio-économiques. Alors, pour le vieillissement, on est effectivement dans une situation totalement inverse. On n'a pas de... Il y a des sociétés dans lesquelles il y a une discrimination et de la surmortalité des femmes adultes. C'est le cas, par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est le cas en Inde, mais c'est beaucoup moins fort. Quand on peut le mesurer, malheureusement, la mortalité des enfants est très difficile à mesurer, mais celle des adultes est encore pire. Parce qu'il y a une incertitude énorme sur l'âge des adultes. Donc ce qu'on sait, c'est que, par exemple, en Afrique subsaharienne, ça se manifeste surtout sur les femmes adultes, plus que sur les filles. Maintenant, quand on arrive en Europe de l'Ouest, évidemment, il n'y a pas grand-chose à voir. Au contraire, les femmes investissent massivement sur leur santé et donc sur leur survie par rapport aux garçons qui font de la mobilette, qui ont plein d'autres activités plus fun, mais qui donnent des pronostics vitaux raccourcis. Et donc, cet investissement, cette tradition de l'investissement des femmes sur leur santé, sur leur longévité, a porté ses fruits, n'est pas l'effet d'une discrimination de systèmes sociaux. Là, c'est certes, la publication n'encourage pas forcément les garçons à prendre soin d'eux quand ils sont petits, au contraire, doivent résister à l'adversité, etc. Il y a plein de formes comme ça de biais, mais ce n'est pas une discrimination visant à réduire la part démographique des hommes. Et il leur appartient d'ailleurs de rattraper leurs désavantages de longévité. Maintenant, on peut voir des phénomènes similaires que je décris mais en miroir dans les unions, les modes d'union de femmes. Au-delà de 50 ans, les risques d'isolement, de veuvage, les difficultés des femmes sur le marché du remariage, qui sont décrits avec beaucoup de renoncement d'ailleurs, enfin, pas de renoncement, c'est de l'évitement, mais. Donc, oui, il y a des rapports, mais c'est en miroir et c'est dans des sociétés qui sont fort peu patriarcales, donc j'utiliserai pas forcément les mêmes notions comme ça.
Déjà, je vous remercie de m'avoir proposé de discuter de tout ça aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour moi. Donc moi j'ai lu l'article de l'Ancet et j'ai un certain nombre de questions que tu as déjà répondu dans ton exposé. Donc je vais avoir juste une réflexion, plus une question. C'est sur finalement l'échelle géographique, mais en même temps sur l'échelle démographique, les ordres de grandeur. L'Inde, il faut savoir que c'est, je ne dis pas pour toi évidemment, mais c'est maintenant quasiment plus de 3 milliards d'habitants. C'est en gros 2,5 fois l'Union Européenne, et si on faisait une étude sur l'Union Européenne, on s'attendrait automatiquement à tomber sur des clivages démographiques, étant donné la diversité culturelle qu'il y a en Europe, entre l'Europe occidentale, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Donc finalement, comme tu l'as justement bien dit, quand on prend une population aussi grande que celle de l'Inde, avec la diversité culturelle indienne, alors il faut savoir qu'en Inde, il y a quand même plusieurs alphabets, mais plus de 30 langues officielles, et ça c'est juste pour représenter la grande diversité culturelle du pays. Et donc forcément, quand on va étudier un phénomène démographique, on s'attend, mais on sait quasiment d'avance, qu'il va y avoir une disparité géographique plus ou moins forte en fonction de comment ils ont évolué. Et ça, tu le mets quand même en évidence dans ton travail, alors, sur le travail sur la fécondité, sur cette ratio. Maintenant, si on change d'échelle, parce que tu as mis en évidence, ça sent moins ici, mais dans tes travaux, la place de la géographie du spatial, justement, est quand même assez prégnante. Si on fonctionne avec des populations plus petites, c'est-à-dire, typiquement, tu parlais du Kosovo, dans les Balkans, mais aussi dans d'autres pays asiatiques, où les populations sont vraiment sur d'autres de grande masse, où la diversité culturelle est peut-être moins forte, moins grande, est-ce que l'apport de la l'apport de la géographie ou l'apport de la réflexion géographique serait la même. Est-ce qu'elle serait atténuée ou finalement elle aurait autant de force sur des questions plus petites? On l'a vu sur la France, moi, je parle des travaux sur la France, mais est-ce que tu as exploré ces endroits-là sur les pays de plus petite taille? Et si oui, est-ce que ça donne à peu près les mêmes résultats ou finalement c'est moins évident quand même, peut-être?
Ben, là, les cas sont très variables. Mais disons que la dimension démographique, surtout en période de transition, tout ce que je vous décris, moi, c'est ce que j'appelle la transition du sept info, c'est des transformations. On passe d'un équilibre à un autre. Quand on examine l'équilibre de départ, donc je fais référence à l'équilibre de régime démographique. Les démographes parlent de régime démographique, qui sont des choses à peu près, des systèmes de conduite, de comportement démographique qui sont un peu normés, reproduits, et qui sont très stables dans le temps, beaucoup plus que les actions, économiques, par exemple, qui sont beaucoup plus variables. Donc, quand on est dans cette phase de transition, il y a une particularité, c'est que l'hétérogénéité apparaît, avec notamment des groupes qu'on qualifie souvent de pionniers, et puis des groupes qui sont des suiveurs, et voire des groupes retardataires ou des groupes de résistance. Donc, si par exemple, une baisse de la mortalité va faire apparaître l'avantage de certaines populations, voire de populations nouvelles, etc., mais au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose à voir. On peut prendre des microscopes et voir des micro-différences, on ne les voit plus. Par exemple, la surmortalité infantile dans le nord de la France, elle est à peine perceptible, mais lors de la baisse rapide de la mortalité, elle était très, très visible. C'était une source vraiment de... Donc, les choses peuvent disparaître. Alors, c'est vrai que, parce que le phénomène n'est pas stabilisé sur le long terme, on voit des différences, et les déséquilibres de genre, enfin les déséquilibres démographiques dans l'enfance, à la naissance, font apparaître ça. Il y a des régions où, oui, on le voit, j'ai donné le cas de la Géorgie, effectivement, mais il se trouve que la Géorgie, elle est pluriethnique. Des trois pays du Caucase Sud, c'est le seul cas d'importantes minorités, d'ailleurs arménienne et azérie. Alors que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, suite à quelques nettoyages ethniques, sont très homogènes. Donc on voit des différences en Géorgie, on ne va pas les voir en Arménie, par exemple. Et là, on n'a pas les bons chiffres. Au Kosovo, c'est très très uniforme. En plus, le Kosovo est tout petit, en bagnole, au bout du nord, vous êtes vers la frontière. Hein. Donc, il n'y a pas de problème de mesure aussi. Sur l'Albanie, on peut distinguer les régions du nord-est, qui sont des régions. L'ironie, c'est qu'elles sont catholiques, et que les catholiques en général ne sont pas trop portés sur l'avortement, mais c'est elles qui ressortent un tout petit peu. Pour ceux qui ont lu des romans de Ismaël Kadaré, c'est les régions les plus patriarcales où on applique la loi du Bessa, qui est des lois extrêmement violentes à l'égard des femmes, qui a deux femmes un statut très marginal. Donc, oui, sur des petites unités, parfois on peut le voir. Et parfois, on n'a que du bruit statistique, parce que nos instruments de mesure ne sont pas bons, ou parce que, effectivement, les variations sont dues à son futur du bruit et pas du signal. Pour ça, c'est un problème, je pense que tu es familier de cette question-là. Plus on descend, plus on risque de tomber sur la variabilité aléatoire.
Très rapide pour qu'après nous la discussion.
Du coup, quand tu commences à parler de retardataire, etc., c'est des processus de diffusion.
Oui.
Mais justement, je pensais, quand tu montrais tes schémas à la fin,
ouais.
Si, en gros, les disparités seraient moins géographiques, les disparités évolueraient finalement en fonction de l'étape où on est de la diffusion.
Oui. Mais là, il faut voir de quelle diffusion on parle, parce qu'on a un modèle épidémiologique de la diffusion, donc il y a vraiment un machin qui se diffuse, un virus, une idée, une technique, etc. Ça, c'est une version assez, somme toute, je ne voudrais pas dire matérialiste, parce qu'il y a une diffusion idéale aussi, mais néanmoins, elle pense qu'il y a vraiment quelque chose, un objet social, qui se transmet. Mais en fait, c'est pas forcément dans la situation que je décris, c'est pas ça. C'est la baisse de la fécondité qui, elle, se diffuse. C'est pas les techniques de discrimination. Donc la baisse de la fécondité va rattraper des régions et elle-même, elle a le côté diffusionnel. Donc il faut bien voir de tous les éléments lequel suit un processus de diffusion et lequel n'est qu'un. Une conséquence.
Merci. Alors ce qu'on va faire, on va prendre une série de questions peut-être parce que Sylvie en premier. Et puis s'il y a d'autres questions, on les prendra à la suite.
Moi, j'ai une série de questions. Yeah. Donc, d'abord, merci pour ce passionnant exposé et très clair. Merci d'avoir joué le jeu, de le rendre accessible auprès d'un public majoritairement non démographique. Donc merci beaucoup. Alors du coup, on se sent en confiance et je me permets des questions qui pourront être complètement naïves, mais tant pis. Ou alors, parce que tout simplement, je n'aurais rien compris. Mais parce que je me sens en confiance, j'ose. D'abord, revenir sur cette première question sur la détermination de la structure spatiale. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'à vous écouter, je vois dans votre explication, mais alors intrinsèquement liées les données sociales. Ou les facteurs politiques, plus que les facteurs démographiques. Dans votre explication, la détermination spatiale avant ces facteurs-là ne m'apparaît pas. Pour moi, c'est tellement lié, c'est du socio-spatial, que je ne comprends pas le paradigme qui est de dire il y a une détermination de la structure spatiale. Donc, merci de me l'éclaircir. C'était ma demande d'éclaircissement. Une deuxième, c'est en fait une série de demandes d'exercices. On a parlé de l'apport de la géographie, mais on voit bien que vous êtes beaucoup plus riche que ça, et on voit bien que l'approche empirique du terrain vous nourrit constamment dans votre approche démographique. Je pense qu'une démographie de salon qui resterait, comme on appelle une sociologie de salon qui resterait dans ses bureaux à regarder de l'analyse secondaire, ne pourrait pas produire l'analyse que vous faites. Alors, moi, est-ce que vous pouvez nous affiner ça? En quoi l'approche empirique de terrain vous nourrit dans votre approche démographique? J'imagine, en vous écoutant, qu'elle vous permet de sélectionner ou de hiérarchiser les facteurs, de pouvoir dire, la famille, elle passe avant la religion, par exemple. Du fait, ça ne nous parle pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous affiner cette démarche complètement totale chez vous, vous écoutez? Toujours dans la même veine de questionnement sur les démarches démographiques, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le démographe a nécessairement besoin d'avoir recours à la projection? Il pourrait s'arrêter finalement à une analyse. Pourquoi ce besoin de projeter? Et merci, parce que nous, en sociologie, on ne le fait pas. Ne le fait pas. Alors, on ne se l'interdit pas, mais on ne le fait pas dans n'importe... C'est pas pas du tout dans notre tradition de recherche. Et enfin, alors là, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Quand vous nous dites, au final, pour changer ce déclin de cette préférence, finalement, c'est parmi les trois facteurs, les trois grands facteurs qui sont eux-mêmes nourris de multiples facteurs, on a bien compris, c'est finalement le troisième.
La préférence pour les enfants.
Voilà. Et là je me pose la question, parce que vous avez mis tout ce qui est de l'ordre de la politique, de planification familiale, etc., dans le premier principal facteur, technologie de sélection, qui est, on l'a bien compris, une série. On peut s'imaginer qu'un changement de politique peut tout à fait changer l'ordre des choses, le cours des choses. Voilà.
Alors,
que j'ai trouvé vraiment votre expérience.
Alors, il y a d'autres questions, mais peut-être que comme Sylvie, c'était déjà une série de questions, on va peut-être laisser un temps de réponse d'abord et on prendra les autres questions après.
Alors, je reconnais que je pourrais parler de structure socio-spatiale autant que de structure spatiale. Il s'avère néanmoins que je puise beaucoup. mon inspiration dans les travaux anthropologiques que j'en regarde vraiment de très très près. Mais les anthropologues ont une difficulté, et nous enfin ce sont des anthropologues qui sont présents, à généraliser et parfois aussi à quantifier. Et quand on fait ceci, on rapproche des zones connexes, on commence à constituer une géographie et on dit quelque chose que anthropologue ou sociologue ne pouvait pas dire. Ils ne sont pas forcément contre avec, mais ils disent, ah non, les anthropologues disent, non, non, là, on n'a jamais vu ça, on fait pas ça, comme ça, etc. On ne ramène pas des villages ensemble, juste parce qu'ils sont les uns à côté des autres, etc., des régions. Et à ce moment-là, on fait émerger une dimension qui est certes socio-spatiale, mais qui a un aspect spatial irréductible. Irréductible au sens d'autres disciplines, comme l'anthropologie, la sociologie, je ne vais pas citer l'économie, qui auraient plein d'explications, hein, mais qui n'ont pas cette capacité à nous prédire pourquoi il y aura une concentration spatiale aussi forte. Et ensuite, peut-être ils peuvent y répondre et dire oui, c'est parce que pour la main, par exemple, c'est ce que, l'argument que j'ai utilisé, pour l'entretien ou le maintien ou la mise en œuvre des systèmes sociaux, notamment des systèmes inégalitaires, il faut une très très forte cohésion sociale. Et cette cohésion est souvent une cohésion fondée sur la proximité spatiale. Tout mon travail a commencé parce que j'étais dans une petite région du sud de l'Inde et que des gens m'ont dit « Oui, ah ben, nous on le fait pas, mais la voisine, elle a tué sa petite fille après la naissance. » J'ai dit « J'ai fait comprendre que quand même, c'était un peu gros. » Personne m'a dit « Oui, oui, oui. » Mais tu dois comprendre, elle avait déjà eu deux petites filles. Donc, en fait, la norme locale était que c'était « OK ». C'était regrettable, mais que ce sont des choses qui arrivent. Mais cette norme était valable sur une centaine de kilomètres. Dès que je me déplaçais ailleurs, j'en fait, je suis rentré quelques jours à Pondichéry, j'ai raconté ça à des gens, des tamouls comme ceux qui m'avaient raconté la première histoire, et m'ont dit, mais c'est des assassins ces gens. Et là ils étaient des assassins, mais là ils réglaient des problèmes familiaux. Donc, ensuite, j'ai essayé de trouver des principes plus anthropologiques. Est-ce que c'est une composition de cas? Est-ce qu'il y avait une histoire particulière? On n'a pas vraiment réussi à trouver. On a supposé que c'était ça. Mais le fait, la mise en œuvre dans un cadre territorial donné et assez circonscrit était totalement frappante. Et encore aujourd'hui, si on parle de l'infanticide, les gens parleront de cette région et ils diront juste « Ah oui, la région de Selam ». Comme si la région de Selam, comme une espèce de triangle des Bermudes, il s'y passe quelque chose que personne d'autre ne puisse expliquer. Donc c'est l'explication triangle des Bermudes. On ne sait pas, il y a la géographie, et la géographie nous dit qu'il va se passer des choses dans cette région. Donc, moi j'entends tout ce que tout le monde me dit, mais j'attends qu'une théorie puisse aussi prendre en compte cette forme de structuration géographique et en rendre compte. Et là, sociologues ou économistes vont avoir des explications, mais c'est juste.
Les historiens, alors, peut-être?
Peut-être les historiens, ils vont parler d'inertie socio-spatiale. C'est ça que disent les historiens. Ils n'avancent pas trop. Hein. C'est les historiens qui font l'histoire, par exemple, des pratiques régionales, comme ça qu'ils voient les choses, en termes d'inertie. Ce ne sont pas forcément bons géographes. L'information locale, l'information, le relevé empirique est nécessaire. Parce que d'abord, on se trompe, de temps en temps, on ne comprend pas, et localement, il y a toujours un discours particulier qui est émis. Non pas pour justifier ces pratiques, parce que les pratiques sont tout à fait normales, il n'y a pas besoin de les justifier, mais pour donner un sens local à des pratiques. Et on doit entendre les voix locales pour comprendre comment les gens organisent des formes vraiment de pratiques discriminatoires, que même parfois ils récusent d'un point de vue philosophique, que localement ils sont obligés, localement à l'intérieur de leur famille, ils sont obligés de mettre en œuvre. Et ils donnent un discours qui soit, en général, les affranchissent vis-à-vis de leur choix individuel, en disant que c'est la famille, tu comprends, c'est ma belle-mère, par exemple, puisqu'on est en Inde, tu comprends, on ne peut pas avoir le nombre d'enfants qu'on veut, tu comprends, c'est tellement facile de le faire, pourquoi on s'en priverait, la voisine le fait, tu comprends, on a besoin de quelqu'un qui va aller nettoyer nos eaux après la mort, et ça va être un garçon, c'est une histoire vietnamienne. Tu comprends, on a besoin de garçons parce que si les Azéris nous attaquent, il faut que l'armée arménienne soit forte. Bref, il y a plein de discours comme ça. Mais moi, j'en ai entendu tellement de discours et il y avait des gens qui se prétendaient, ça me faisait vraiment, alors là ça commençait à me faire bien rigoler, des gens qui avaient une sociologie spontanée et qui me disaient, tu sais Christophe, tu peux pas comprendre, c'est la mentalité albanaise. Et la deuxième fois qu'on m'a fait le coup, j'ai attrapé la main au mec, on m'a dit « Toi, tu me dis c'est albanais, mais il y a trois semaines, j'ai entendu que c'était la mentalité arménienne. Et avant, on m'a dit que c'était les gens du Vietnam qui étaient comme ça. » Donc, arrêtez un peu avec votre essentialisation locale. En fait, vous avez des pratiques qui viennent d'autres choses, les systèmes de parenté. Mais les systèmes de parenté, la prose, ce jour-là, les gens, les pratiques sont sans en connaître bien la prégnance. Et la voix locale est importante, mais elle n'est pas tant importante pour donner une explication, une logique. Elle est plutôt là pour montrer comment les agents sont porteurs de discours qui sont eux-mêmes hérités des discours conventionnels. Il y a des discours aussi de réticence, etc. Mais comment tu peux dire ça? Moi, j'étais pris à partie en public, de temps en temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il arrive chez nous, il est en train de dire, nous, on adore nos petites filles, et tous ses chiffres sont faux, il ne connaît rien et tout. Bon, ouais, il y a des résistances, etc. Mais il n'y a pas forcément la vérité démographique des pratiques. Personne ne connaît les niveaux de surmortalité des petites filles. On peut interroger les gens, ils disent non, bah oui, ça dépend, bah elles meurent, oui, bah elles sont plus faibles, oui, mais non, elles nourrissent bien. Bref, c'est uniquement quand la voiture balai démographique arrive, commence à faire des mesures, les met sur les cartes, que les gens disent un. Et puis les cartes sont, comme on les voit, très très compactes, qu'on se dit que. Oui, il se passe quelque chose qui est au-delà du discours des gens. Donc, empirique, certes, mais au bout d'un moment, il faut dire oui, d'accord, ouais, la mentalité albanaise. Ouais, j'ai bien pris note, mais en fait, c'est pas ça que je retiens. Même le mot mentalité a été banni parmi les gens qui travaillent sur la question, parce qu'ils savent que c'est un habillage pour des pratiques discriminatoires familiales qui viennent de mode de reproduction familiaux. Alors, la démographie et la projection. Oui, la démographie, hein, comme toute science sociale, elle a des contraintes de marketing. Hein. Donc, elle n'est pas particulièrement sexy quand elle découpe et mesure la surmortalité féminine. C'est vraiment pas du tout rigolo. Hein. Tu as dû voir ça dans l'article de l'UNICEF, c'est vraiment pas simple. Par contre, il y a quand même une chose qu'on arrive à vendre, hein, c'est les projections. Parce que tout le monde fait de la démographie spontanément. Tous les gens qui disent qu'ils aiment la musique, c'est-à-dire qu'ils savent bien les partitions. Donc, la démographie, c'est comme ça, tout le monde est au courant, oui, il y a un petit garçon, il y a une épidémie de petits garçons, etc. Parce que je reçois beaucoup de messages comme ça sur la perception du sexe racial à la naissance. Notre capacité à intervenir, c'est pas seulement en objectivant les choses, c'est aussi en disant que la moitié de la population dans 40 ans est déjà née. Donc on en connaît les contours. Donc en termes de projection, on est relativement bon et il y a une demande sur les démographes en tant que visionnaires. Et par exemple, on n'a pas hésité à projeter la population de tous les pays du monde jusqu'à 2100. Faites ça avec l'économie, faites ça avec les migrations, faites ça avec etc. Le truc explose au bout de 10 ans de projection. Donc nous, on fait ça, et on a des savoir-faire qui sont qui répondent à une certaine demande justement vis-à-vis de la manière dont on fait notre marketing. Pas que le décompte, c'est très descriptif, mais aussi la capacité à prévoir des choses par simulation et manipulation. Et on n'est pas forcément absurde dans nos exercices. Préférence pour les garçons et les politiques, etc. Ben oui, mais ça c'est ce que j'avais dit. Ouais, la politique, ouais, c'est comme la religion, c'est vachement important. La famille, c'est plus important. Donc, plein de politiques se sont mises en place. Et par exemple, la politique de l'enfant unique était la politique la plus forte d'un point de vue démographique jamais introduite dans le monde. Elle a été faite au prix des petites filles parce que il a été accordé aux paysans chinois, par exemple, quand ils avaient le premier enfant qui était une petite fille, d'avoir un second enfant. Je ne sais pas si cet aspect de la politique de l'enfant unique est familier, mais cet aspect montrait bien le caractère sexiste de la politique de l'enfant unique, alors qu'on était en Chine où, depuis les années 50, les femmes conduisaient les bus. Donc il y avait vraiment une réelle égalité, une extirpation du système du système confucéen, disons. Mais ça, là-dessus, il a fallu que le gouvernement lâche du lest pour donner la possibilité donner la possibilité aux familles d'exprimer leurs préférences genrées. Donc la plupart des politiques, elles sont passées un peu là-dessus. De temps en temps, il y en a qui sont un peu plus efficaces ou un peu moins efficaces que d'autres. Mais ils n'ont pas eu énormément de faits. En fait, les politiques démographiques n'ont pas beaucoup d'effets. C'est ça, une autre affaire de marketing de la démographie.
Merci. Alors on va prendre la question. Il y avait Thierry et Farida.
Thierry Bloss. Je me sens complètement en confiance, donc je vais vous poser une petite question, peut-être un peu hétérodoxe. En préambule, moi votre exposé m'a beaucoup instruit. J'ai beaucoup aimé, notamment dans votre introduction, où vous opposiez le sens commun, que le sociologue appellerait le sens commun, véhiculé par les politiques ou autres, et à ce sens commun, vous opposez, vous, un point de vue scientifique fondé sur des constructions et donc on apprend à travers cela le décalage qui existe entre les visions courantes colportées et le résultat du travail scientifique. Ça, je trouve que c'est pour le coup c'est le résultat d'un travail de terrain. Alors le travail d'analyse des données il est là, hein, il n'est pas commode, j'imagine, hein, manipuler des données disparates, en construction, etc. C'est tout sauf un travail de salon, hein, contrairement à ce que dit Sylvie, c'est tout sauf confortable.
Il hein. Y a quand même un aspect table de cuisine. Hein.
Voilà, on peut faire table de cuisine de salon. Voilà.
Oui, la métaphore c'est moins élégante.
La métaphore est moins commode. Bon. Si je vous suis bien, il y a une hypothèse, vous me direz si je commets un contre-sens. Il y a une hypothèse, à mon avis, forte, qui est, à mon avis, parce que je n'y avais pas pensé, donc je la prends en pleine figure, d'une évolution, je dirais, historique, du phénomène de la surmortalité féminine, sous forme de cycle. Mm-hmm. Vous avez terminé avec cette belle courbe en cloche, cette loi normale, et où on a un pays un peu prototype, mm-hmm. qui est en avance sur les autres, la Corée. Et donc, moi, ma question, première question, mais dans une deuxième un peu plus hétérodoxe, quels facteurs objectifs, selon vous, juridiques, que sais-je, institutionnels, ont contribué à produire ce changement en Corée, qui n'aurait pas été encore avéré dans d'autres pays? Qu'est-ce qui fait? Et ma deuxième question, c'est plus une réflexion, mais parce que on n'a pas le temps de discuter, c'est le propre d'un exercice d'être limité dans le temps. Dans votre petit texte que j'ai lu, vous évoquez la rigidité des systèmes de parenté. Mm-hmm. Au cours de votre exposé, vous parlez de l'érosion des systèmes de parenté. Mm-hmm. Et moi, ma question est la suivante. C'est, est-ce qu'on parle de la même chose lorsqu'on parle des systèmes de parenté, mm-hmm. au sens de Robin Fox? Mm-hmm. Vous avez bien symbolisé avec ces petits schémas. Mm-hmm. J'ai le sentiment que, vous dites d'ailleurs, le facteur social, je vais l'appeler comme cela, ou moral, qui explique le phénomène, c'est ce que vous avez nommé, de manière très simple et à mon avis très percutante, la préférence pour les garçons. Ça se décline de mille façons. Mais est-ce que cela a à voir avec les systèmes de parenté? Dans cette belle carte que vous avez montrée, on voit le système patrilinéaire, alors là on est pour le coup, au sens de Robin Fox, dans les systèmes de parenté, on voit le système patrilinéaire gouverner le monde, quasiment. Il y a une zone que vous avez laissée en grisée, c'est l'Occident, c'est l'Europe, où, me semble-t-il, le système patrilinéaire est également là, sous différentes formes. Et donc, est-ce que... ce qui est réellement en jeu, ce sont les systèmes de parenté, et pas d'autres facteurs institutionnels, politiques, etc.
Merci, on va enchaîner. Ah, pardon.
Je suis rapide, caricatural, mais c'est parce que j'étais en conscience.
On va enchaîner avec la question de Farida.
Oui, moi j'ai deux questions qui sont assez brèves. La première, c'est qui m'a interpellée, notamment dans la représentation géographique de l'Inde, c'est pourquoi alors la vallée du Gange n'est pas touchée par la sélection prénatale comme l'autre, alors qu'il continue à avoir de... Pourquoi il n'y a pas cette pénétration pratique qui semble avoir pénétré depuis les années 80 en Inde? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question serait une question plutôt de comparaison. Donc, on voit ce que très bien, je trouve que la démonstration elle est très convaincante, ce qu'ont en commun ces sociétés. Mais moi, la question que je me pose, c'est il y a bien des sociétés qui ont en commun tout cela. Lignée patrilinéaire, la préférence pour les garçons, le taux de fertilité qui diminue. Mm-hmm. Et pourtant, on ne voit pas ni de pratique de sélection prénatale, ni d'infanticide qui pourrait être comme ça démontré. Mm-hmm. Et donc, pourquoi en fait il y a des sociétés qui ont ces traits? Et peut-être, moi intuitivement, je dirais que l'un des facteurs, en tout cas l'une des images, des photographies les plus frappantes dans votre site qui marche très bien, c'était ce slogan abortion, comme ça, très assumé en fait. Est-ce que le décret de capacité à la société à accepter en fait la pratique de sélection à des degrés divers de la grossesse, on voit que même dans la société française, l'avortement parfois est encore remis en question, et aussi à complètement. À terre, si ce n'est à assumer, c'est-à-dire je veux dire que par exemple l'infanticide n'est pas tabou en Inde, mais à laisser faire et à faire comme si on ne voyait pas quand il arrive, c'est pas ça qui différencie ces sociétés aussi, et pas seulement la préférence pour les garçons, parce qu'il y a plein de sociétés où il y a une préférence pour les garçons, mais on a des filles, on les éduque moins, on s'en occupe moins, si, enfin, et voilà quoi. On leur fait faire des tâches domestiques pour paiement, etc.
Vu qu'il reste pas beaucoup de temps, je sais que Pierre avait aussi une question, donc on va l'enchaîner, je pense.
J'en avais aussi, mais on a le temps dont vous disposez, sinon c'est pas grave. Merci beaucoup. Moi j'adore la voiture objectiviste, la démographie spatialiste, bien critiquer l'essentialisme, le culturalisme. Parfait. Okay. Tester les corrélations, ici avec les systèmes de parenté. Certains ne seront pas surpris, j'utilise souvent la référence à André Siegfried parce que je trouve qu'elle marche bien pour les sociologues pour se dire le calcaire, le granit et l'analyse du vote, comment on fait. Alors j'avais une question technique qui réclamerait que vous rallumiez votre petite machine sur une diapo parce que je ne comprenais pas trop comment vous aviez fait pour construire l'écart. Et par exemple, vous nous avez expliqué que 105 c'était la valeur habituelle et vous la prenez comme une valeur frontière. Du coup, je me disais, tiens, moi je l'aurais prise comme une valeur du centre dans les échelles chromatiques et j'aurais construit en dessous et en dessus des couleurs différentes. Et là, vous mettez du blanc pour tout ce qui est en dessous de 65, ça me paraissait un peu bizarre. Et puis après, dans le détail de ce que vous avez présenté, je me disais, bon, si je repense à Siegfried, si je repense à cette idée de fermage et métayage qui sont derrière granit et calcaire pour expliquer les types de votes qu'on a, c'est finalement des enjeux d'histoire qui sont remobilisables. Et sur les systèmes de parenté, les sociologues ont appris avec Bourdieu le célibat dans le Béarn à dire, tiens, alors peut-être qu'il y a des circonstances particulières qui vont faire qu'à un moment donné, un système de parenté peut être tourné pour un usage, et 30 ans plus tard, les conditions de reproduction du groupe ne sont plus les mêmes, c'est autrement qu'on tourne le système de parenté. Donc est-ce que le système de parenté doit être autonomisé ou est-ce qu'il doit être inscrit dans des contextes spatiaux mais aussi temporels pour arriver à nous donner les clés d'explication? Et du coup, je reviendrai sur le chef de la boucle finale que vous nous avez donné en disant, est-ce que c'est un schéma qui doit se répéter ou est-ce que c'est un schéma qu'il faut historiciser pour dire ici, on en est à tel moment parce qu'on est sur telle circonstance, et c'est pas sûr qu'on ait une descente aussi rapide qu'on a eu à monter ou quelque chose comme ça.
Voilà, il reste 10 minutes pour répondre à toutes
les questions à rebours. Donc, en commençant par cette dernière remarque, effectivement, le schéma de ce cycle est une simplification. Le cycle n'aura pas la même forme selon les pays. Il se trouve que les deux pays qui ont connu un déclin, une montée, une hausse, puis une baisse du sexe ratio sont la Corée du Sud et la Géorgie. Et je ne vous ai pas fait le coup, mais en fait, j'ai collé leurs courbes, elles sont identiques. Donc ça, quand je le montre à certains endroits, ça fait frissonner les gens. Et ils disent qu'évidemment, c'est du hasard, mais bon, il y a un truc de Leibniz sur les indiscernables que je ne vais pas vous citer, mais à force d'être indistinguable, on finit par penser que c'est le même processus qui a lieu en Géorgie et en Corée du Sud. Donc, en fait, c'est un outil heuristique, un petit peu comme la transition démographique. C'est d'imaginer qu'il va y avoir une succession. D'ailleurs, peut-être, je réponds directement à la question de Thierry, qui me demandait quels étaient les facteurs internes, enfin, quels étaient les facteurs du retournement en Corée du Sud. Et là, il y a des facteurs à la fois internes et externes. Externes, parce que la Corée du Sud a connu une progression dans son développement social extrêmement rapide, son développement économique aussi, qui a impliqué les femmes et qui a transformé, un, leur niveau d'éducation et, deux, d'implication sur le marché du travail. Donc ça, c'est le facteur structurel qui a fait que les femmes se sont drôlement autonomisées. Il y a eu un effet juridique, où la loi en Corée du Sud a cessé de rendre les femmes dépendantes de leur mari ou de leur père. Donc ça a été transformé, y compris pendant la dictature. Hein. Donc assez tôt, il y a eu des transformations qui ont été actées juridiquement. Et puis il y a aussi la transformation quasi endogène du système qui est finalement, c'est pas vivable de produire trop un surplus de garçons. C'est pas vivable parce que les garçons sont. Il y a eu beaucoup de mariages, ça continue d'ailleurs, de femmes qui viennent de Mongolie, de Chine, surtout du Vietnam, pour épouser des hommes en Corée qui n'arrivent pas à se marier. Donc, souvent des paysans, enfin pas des gens des zones rurales. Donc, le système n'était pas viable à long terme et ça implique une transformation des pratiques. Donc, ça, c'est l'aspect un peu endogène. Il se trouve que sur la carte des systèmes de parenté, c'était une carte qui vient d'un atlas, il n'y en a pas beaucoup, vous n'avez pas vu, mais il est en allemand, c'est un peu pénible à lire, et ils n'ont pas couvert l'Europe sur cette page de l'atlas. Donc l'Europe apparaît comme grise pour cette raison-là. Mais en fait, l'Europe est très hétérogène, il suffit d'aller lire ce qu'écrit Emmanuel Todd là-dessus. Et c'est vrai que la famille albanaise, où les gens construisent une maison où il y aura trois appartements pour les fils et puis un appartement supérieur pour les parents, c'est vraiment une projection dans le futur. Hein. On trouve des maisons comme ça, donc elles sont souvent comme ça, elles montent vers le haut, on les retrouve aussi au Kosovo, et c'est surtout en Albanie. On voit que c'est un projet familial qui est pensé sur une base de parenté. Alors c'est sûr qu'à la marge on va négocier, qu'il y a des fils qui vont disparaître, etc. Mais il n'y aura pas de fille qui viendra habiter avec les parents, qui amènera son jumeau. Parce que le jumeau, il sera considéré comme émasculé de habiter dans la famille de sa femme. Donc c'est totalement exclu. Tous ces pays-là d'ailleurs ont un petit sobriquet pour se moquer gravement des gens qui habitent dans la famille de leur épouse. Et en général, ça veut dire que ils sont, d'un point de vue de virilité, ils sont d'une échelle très inférieure à cause de ça. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment les systèmes de parenté. Très honnêtement, je ne suis pas un grand anthropologue, mais ça ressemble à un langage de formation
familiale, de constitution des familles, que je résume en système de parenté. J'essaie d'être rapide. Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre question, et j'aime bien les questions théoriques, c'est s'il y a un schéma, alors essayons d'en mettre là, et de voir si effectivement ça donne ceci. Alors, il se trouve que, oui, quand on met les trois facteurs les uns après les autres, ça donne toujours des discriminations. Mais il y a des fois, et là vraiment bravo, vous avez désigné un des facteurs qui de temps en temps manque, l'avortement. Et il y a des régions du monde où il n'y a pas d'avortement. Et c'est où? En Afrique subsaharienne. Alors on laisse compter l'Amérique latine parce que là c'est le système bilatéral. En Afrique subsaharienne et dans le Moyen-Orient, du Maroc jusqu'en Irak. Et là vous regardez tous ces pays-là, quels sont les pays qui ont l'avortement? Ben, il y en a deux, il y a la Tunisie. Et puis, je crois qu'il y a, bizarrement, il y a le Bahreïn ou un pays du Golfe. Et bien, la Tunisie, il se trouve que le sexe ratio à la naissance est un peu plus élevé qu'ailleurs. Donc, je regarde ça. Ça, c'est la partie table de cuisine. Hein, je surveille. Donc, oui, on peut faire des pronostics comme ça. Et on peut dire, ils n'ont pas l'avortement en Afghanistan, mais le jour où ils vont l'avoir, ça va. Il va se passer quelque chose. Parce qu'il ne fait aucun doute qu'il y a des préférences pour les garçons en Afghanistan. Et c'était un peu l'histoire de l'Inde du Nord, de la vallée du Gange. C'est une zone avec une beaucoup plus forte fécondité. Donc, une des conditions n'est pas réunie. Et donc, les gens ont une discrimination ex post, post-natale, qui est à tout bien réfléchir, avoir une fille, finalement, c'est pas terrible. Et là, il ne s'agit pas des investissements de type éducatif. Il s'agit donc. Il s'agit d'investissements vitaux. Et tous les parents investissent massivement sur la survie de leurs enfants, mais il y a quand même des différences.
Pourquoi avoir choisi 5 ans comme barrière pour la... Parce que là, vous mesurez les marques.
Alors, parce qu'on sait que la mortalité infantile, elle diminue très très vite à partir de 1 an. Elle est comme ça, et quand on arrive à 10 ans, on a le niveau de mortalité le plus faible de toute sa vie. Donc, et c'est à ce moment-là que les garçons commencent à avoir des comportements à risque, etc. Ils font remonter jusqu'à la mortalité maternelle, donc ça change un petit peu. Donc la surmortalité, elle s'exprime après l'épisode néonatal, c'est-à-dire après un mois d'âge, jusqu'à environ 3-4 ans. Et c'est à ce moment-là où les enfants sont extrêmement fragiles à la vaccination, à l'absence de vaccination, certains soins de réhydratation, une alimentation, etc. C'est des périodes de fragilité. Donc ça explique la situation de la vallée du Gange aujourd'hui. Alors oui, les systèmes de parenté sont à la fois rigides et changeants. Donc là, j'utilise l'argument selon que ça m'arrange ou pas. Je reconnais. Encore une fois, je ne vais pas faire une théorie sur les systèmes de parenté. Tous les anthropologues qui peuvent être parmi nous savent que c'est un sujet particulièrement ringard, que les anthropologues de la parenté, depuis qu'un dénommé David Schneider est arrivé dans la profession, a été disqualifié comme un truc pratiquement colonial, une projection européenne de construction, une construction européenne projetée sur les populations non européennes. Donc c'est passé de mode. J'y vais prudemment avec les systèmes de parenté, et en plus il s'exprime de plein d'autres manières que sous l'aspect patrilinéaire, matrilinéaire, bilatéral.
Ma question c'était pourquoi tu n'utilises pas un autre terme qui est moins connoté et qui à mon avis serait plus conforme à ce que tu nous as expliqué, qui à mon avis relève moins du système que de la pratique. Des manières de faire, enfin bon, je veux pas.
Alors, oui, ouais, il y a aussi ce défaut, c'est que moi, j'essaye, parce que je viens de ma discipline, j'essaye d'emprunter à une autre discipline des concepts, mais quand je les emprunte, ce sont des concepts canoniques qui datent déjà, qui sont démodés, et que les porteurs, que les représentants de la discipline ont entre-temps. Remis à jour, voire dénoncé, comme le cas de la parenté. Bon, alors, j'arrive pas à parler avec un langage moderne, anthropologique, qui tiendrait la parenté comme un système d'arrangement extrêmement fluide, qu'est effectivement la parenté, sauf quand on tombe sur les interdits. C'est pour ça que je mentionne toujours l'interdit, et c'est vrai que je l'ai fait, j'ai, sans arrêt, j'ai posé des questions à des gens et je leur ai dit c'est très sympa au Kosovo, et qu'est-ce que vous pensez d'aller habiter dans la famille de votre femme? Comment, puisque vous adorez la famille au Kosovo, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? En plus, votre femme, elle est très riche, etc. Et là, les gens n'ont pas du tout trouvé ça drôle. Ils ont dit soit ce mec est vraiment un débile, il ne comprend rien, soit alors il est en train de m'insulter. Et c'est un test. Donc, de temps en temps, on a des systèmes qui sont soi-disant super souples, jusqu'au moment où ça, là, on tombe dans les. On tombe dans les limites de l'admissible. C'est en le mentionnant qu'on voit la réaction des gens et on sait que c'est même plus drôle, c'est carrément impossible, et penser que c'est possible montre qu'on n'est pas un humain comme les autres, hein. Comme penser que l'infanticide est possible est une solution, ça paraît, moi j'y ai jamais pensé. Par exemple, j'ai un fils, peut-être il m'a donné beaucoup de soucis, mais l'infanticide n'a jamais été, partie du registre que j'utilisais. Par contre, il y a des choses peut-être qui sont aujourd'hui condamnables, ou etc., ou par d'autres cultures. Donc, j'ai un peu de peine à définir proprement ces pratiques. Et donc je dis système, et bon, mais maintenant vous me l'avez dit deux fois dessus, je fais très attention.
Bon, ben, je crois que vu l'heure, on va s'arrêter. Merci beaucoup en tout cas.